Le journal est présenté par Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les dirigeants se déchirent. Pendant ce temps, l'Amazonie brûle. Emmanuel Macron, qui a ouvert à Biarritz le G7 hier, s'est opposé au président brésilien, provoquant une crise diplomatique. Précision de notre correspondante à Sao Paulo. Hong Kong, dans la crise. Depuis presque 3 mois, les habitants réclament plus de démocratie. Comme chaque week-end, ils se sont rassemblés hier. Des affrontements ont éclaté avec la police pour la première fois en 10 jours. Casino innove au grand désespoir de la CGT. L'un de ses hypermarchés ouvre aujourd'hui sans caissier. Les clients se débrouilleront aux caisses automatiques. Le temps n'a pas oublié ceux qui ont libéré Paris le 25 août 44. 75 ans après, un nouveau musée ouvre dans la capitale. Vous entendrez sa directrice. 1600 feux se sont déclarés dans la forêt amazonienne entre jeudi et vendredi. Ce chiffre était déjà effrayant, il le devient encore plus. Ces dernières heures, des centaines d'autres incendies ont démarré. Emmanuel Macron, présent au G7 à Biarritz, qui s'est ouvert avec un dîner hier, a rappelé lors de son allocution qu'il voulait une mobilisation de toutes les puissances sur ce sujet. Le chef de l'État avait aussi accusé son homologue brésilien de mentir sur ses engagements climatiques, ce qui a provoqué la plus grave crise diplomatique jusqu'ici entre les deux pays. Au Brésil, la correspondance de Juliette Onça.
Depuis hier, les forces armées brésiliennes survolent la forêt amazonienne pour lutter contre les ravages des flammes sous l'œil critique et attentif de la communauté internationale. D'après le texte voté par Bolsonaro, 44 000 hommes pourront travailler aux frontières, au sein des terres indigènes et des unités de conservation, ce pendant 30 jours, dans les états les plus touchés, l'Acre, l'Amazonas, le Mato Grosso, le Pará, Rondônia et Roraima. Le décret adopté par celui que les défenseurs de l'environnement surnomment « capitaine tronçonneuse » vise surtout à réaffirmer que le Brésil, souverain, sait s'occuper de sa forêt amazonienne. 60% de la forêt est située sur le territoire brésilien. Le capitaine réformé, nostalgique de la dictature, a pourtant contribué à affaiblir, depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier, tous les organes de contrôle de la déforestation. Depuis vendredi, la crise diplomatique entre la France et le Brésil est à la une de toute la presse nationale, vivement critiquée par le président Macron, qu'il accuse d'avoir menti sur ses intentions de protéger le climat. Bolsonaro peut se vanter à présent de l'appui de Donald Trump. Au téléphone vendredi, le président américain lui a promis son aide. C'est le seul membre du G7 auquel le Brésil ne participe pas à afficher clairement son amitié avec Jair Bolsonaro.
Donald Trump qui s'entretient en tête-à-tête en ce moment avec Boris Johnson à propos du Brexit. Pas sûr après tout qu'il fasse front commun face aux autres participants du G7. Le Premier ministre britannique, lui aussi réputé pour son caractère provocateur, a demandé hier au président américain de lever les obstacles pour les entreprises de ses concitoyens installés aux États-Unis. Mis à part leur rencontre, et c'est déjà beaucoup, le programme est chargé aujourd'hui à Biarritz, Bertrand Galichet.
Ce matin, les membres du G7 vont d'abord prolonger entre eux les discussions qu'ils n'ont pas eu le temps de finir hier au phare de Biarritz lors d'un dîner inaugural de 3 heures. Cet agenda de sécurité porte notamment sur l'Iran et l'Ukraine, mais il sera aussi question de commerce international, sujet sur lequel Donald Trump a été stigmatisé pour avoir développé une stratégie de rapport de force. En fin de matinée, Emmanuel Macron accueille les organisations internationales, des Nations Unies à l'OCDE en passant par le FMI, qu'il veut associé au G7 pour l'ouvrir sur l'ensemble du monde. Le déjeuner sera consacré à la lutte contre les inégalités, thème central du sommet défini par le président français. Emmanuel Macron accueillera ensuite les chefs d'État et de gouvernement africains conviés au G7 sans en être membres, Afrique du Sud, Égypte, Sénégal et Rwanda. Ils seront rejoints en fin de journée par d'autres dirigeants, notamment indiens et australiens.
68 personnes ont été interpellées hier en marge du G7 pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations. Les forces de l'ordre en ont placé 38 en garde à vue. La préfecture ne précise pas où ont eu lieu les interpellations. 2 cortèges ont défilé hier. Le premier autorisé à Hendaye et le second à Bayonne où quelques affrontements ont éclaté. Ils sont mobilisés, eux, pour le 12e week-end consécutif. Des milliers de Hongkongais devraient encore descendre aujourd'hui dans la rue. Une grande marche est prévue sur la rive continentale pour réclamer plus de liberté et moins d'ingérence de la part de Pékin. Un rassemblement non autorisé où les affrontements avec la police sont un risque. Hier, le face-à-face a été violent par endroits, Angélique Forget.
Cela faisait 10 jours que les forces de l'ordre n'avaient tiré aucun gaz lacrymogène sur les manifestants, mais cette trêve tacite a pris fin ce week-end. Aux barricades érigées en plein cœur de Hong Kong, la police a répondu en chargeant les protestataires et en faisant usage de gaz poivre et de balles en caoutchouc. Nouveau point de crispation pour les manifestants. Des lampadaires intelligents à reconnaissance faciale auraient été déployés dans la ville et permettraient, selon eux, de collecter les données de leur carte d'identité. Certains ont été vandalisés, des actes condamnés par le gouvernement hongkongais. Sur sa page Facebook, la chef de l'exécutif Carrie Lam a publié un message. « Nous sommes tous fatigués, ne pourrions-nous pas nous asseoir et discuter ?» Les manifestants ont toujours les 5 mêmes revendications depuis le début de la contestation, dont le retrait définitif du projet de loi qui aurait permis les extraditions vers la Chine continentale, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences policières et l'obtention du suffrage universel.
Angélique Forget. Le concept a déjà été testé dans des magasins de petite et moyenne surface. Pour la première fois, un hypermarché de 5000 m² se lance. Il ouvre 100 caissiers cet après-midi à Angers. C'était une nécessité pour répondre à la demande des clients, selon le directeur du magasin, Luc Simon.
Ces ouvertures prolongées ont été mises en place en réalité pour mieux répondre au nouveau rythme de vie de nos clients. On a beaucoup d'étudiants sur Angers, on a le tramway qui s'arrête juste derrière le magasin. On est un magasin de centre-ville. Aujourd'hui, Internet concurrence les hypermarchés, il ne faut pas le cacher. Le client, il fait ses courses dimanche matin, dimanche après-midi, la nuit, tout le temps. Donc les hypermarchés doivent s'adapter. Je dis et j'explique, comme j'explique aussi aux équipes, qu'il n'y a aucune suppression ou une modification de poste de prévu. Les collaborateurs sont indispensables pour accompagner la clientèle.
Mais pour les syndicats, cette ouverture le dimanche après-midi pourrait à terme menacer l'emploi. Patrice Auvinet est secrétaire de la CGT du commerce d'Angers.
On dépasse le cadre du dimanche et on va vers l'ouverture d'un magasin à un hypermarché sans aucune personne en ligne de caisse. Parce qu'il sous-entend qu'on met ça en test. Et puis à dérive, c'est qu'à terme, ce test se pérennise dans l'ensemble des hypermarchés de France, que ce soit Casino ou les concurrents, parce que les concurrents ils vont saisir l'occasion pour faire des tests similaires. Et en France, quand même, dans le magasin, ça représente une quarantaine d'emplois. Mais en France, la grande distribution, c'est environ 270 000 personnes en ligne de caisse. Donc, il y a 270 000 emplois qui, avec ce test qui aboutirait, seraient à terme en danger.
Patrice Auvinet, des propos recueillis par Anne-Laure Jumet pour France Culture. Campus 19, nouveau nom de l'université d'été du PS, se termine aujourd'hui à La Rochelle. Dans son discours de clôture hier soir, le premier secrétaire du Parti Socialiste a réitéré ses appels au rassemblement de la gauche. Hier, les insoumis, aujourd'hui les écologistes pensent avoir acquis le talisman d'une victoire sans partage, a déclaré Olivier Faure face aux militants. La question d'une alliance, cependant, n'est toujours pas tranchée. Écoutez cet extrait. C'était il y a 75 ans exactement.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Le général de Gaulle célébrant la libération de Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour commémorer ce 25 août 1944, la mairie de Paris a prévu plusieurs cérémonies. La première aura lieu ce midi à la Tour Eiffel en hommage aux sapeurs-pompiers qui avaient monté les escaliers de la Dame de Fer pour remplacer le drapeau nazi par le drapeau tricolore. C'est aussi à cette occasion qu'ouvre aujourd'hui le nouveau musée de la libération de Paris, place d'Enfer Rochereau. Il est dirigé par Sylvie Zedman. Selon elle, il est important de conserver intacte la mémoire de cet événement.
Aujourd'hui, on s'éloigne de cette histoire et de ce temps-là, et du coup, on a besoin de plus de clés pour rentrer dans l'histoire. Alors les médias, et puis principalement le cinéma, est beaucoup passé par là. Et donc je pense qu'il y a une transformation de la vision de l'événement. Et la mémoire de l'événement se reconstitue autour d'images de fiction. Et donc on a aussi à cœur de montrer qu'il y a de vraies images, qui sont celles qui ont été prises par des caméramans et des sons qui ont été pris par des reporters de radio. Et donc, on a à cœur de les montrer, ces vraies images, qui ne disent évidemment jamais tout l'événement, mais en tout cas qui donnent de bons indices et de bons supports de compréhension. Et tout l'intérêt du nouveau parcours, c'est de tirer parti de ces collections et des témoignages accumulés et de tout le travail qui a été fait par ma prédécesseure Christine Lévis-Touzet pour pouvoir donner une entrée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Sylvie Zedman, directrice du nouveau musée de la Libération de Paris. Un épisode de pollution à l'ozone est attendu aujourd'hui en Île-de-France. Évitez autant que possible les sorties et les efforts physiques en plein air. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans l'agglomération parisienne. En cause notamment la forte chaleur aujourd'hui. Les températures se situeront cet après-midi entre 28 et 33 degrés, voire 35 et plus dans la région Centre-Val de Loire. Vous aurez un peu de grisaille ce matin sur la façade atlantique. Les nuages vont ensuite se dissiper, sauf en Bretagne.